Chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est toujours pour moi le même bonheur de vous retrouver, non pas pour l'émission Palabre, même si je reçois pour vous une romancière, une grande, mais une émission de rencontre. Et je reçois pour vous Leïla Bouerafa, qui vient d'être primée pour le prix du roman métis des lycéens pour son roman « Tu mérites un pays » aux éditions Alary Édition. Alors Leïla, bonjour et merci de répondre encore une fois à notre invitation.
Merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là.
Alors, comme je le disais en préambule, tu as été primée par les lycéennes de la Réunion. Alors, comment se passe ce séjour, la tournée des lycées pour rencontrer ces jeunes qui t'ont plébiscité?
Mais je suis super heureuse. J'ignorais qu'on surnommait l'île de la Réunion l'île intense. Et puis maintenant que je viens de passer 10 jours de manière très intensive à rencontrer plus d'une dizaine de lycées et de lycéens, tous plus intéressants les uns que les autres, je trouve qu'elle porte très bien son nom, ne serait-ce que par la force de sa jeunesse et de ses habitants.
Alors, en dehors des lycéens, je pense que tu as un peu visité. Quels sont les endroits qui t'ont marqué ou les rencontres avec les habitants qui t'ont vraiment enchanté?
La rencontre avec les habitants, c'est indéniablement les lycéens que je trouve très passionnés et plein de force de conviction, avec beaucoup de puissance. Ils ont des avis très tranchés. C'est un petit peu différent de l'image qu'on peut avoir de la jeunesse, de la génération Z, c'est-à-dire un peu apathique, avec des statistiques sur la lecture qui ne sont pas toujours à leur honneur. Et puis de les voir en face à face avec vraiment cette passion, c'est admirable. Et puis après l'île de la Réunion, de tout ce que j'ai pu visiter, entre deux rencontres, je suis ébahie un petit peu partout par la diversité des paysages, leur splendeur. Et par exemple ce matin, on était à Sainte-Suzanne et puis on me dit « Ah mais il y a une magnifique chute à 5 minutes, la chute du Niagara ». Et on roule 5 minutes et on tombe sur un spectacle grandiose. Donc en fait, oui exactement, tout est plus beau, tous les paysages sont plus beaux les uns que les autres.
Voilà. Et donc, comme je le disais, donc on ne va pas spécialement parler de ton roman « Tu mérites un pays », mais j'ai envie, juste avant de commencer notre interview, qui sera articulée autour de problématiques que tu abordes, mais qui sont sociologiques, anthropologiques et même politiques, mais j'ai envie de te livrer à une petite explication de texte, petite phrase que j'ai notée et qui m'ont fait rire carrément, donc avec un humour que je qualifie un humour à la Jacques Prévert, ou encore une fois, hier j'ai ressorti Zazie dans le métro et je me disais, oui, c'est le même type d'humour. Alors, quand tu dis par exemple, page 36, même Polo a la Légion d'honneur, qui est une décoration française remise à Michel Sardou et à Bachar Al-Assad. Alors, explication de texte.
Explication de ce texte, je vais le mettre en lumière avec un événement qui vient de se passer en métropole, c'est-à-dire que Macron a remis la Légion d'honneur à l'animateur Thierry Ardisson, qui certes a marqué toute une génération, mais qui, voilà, sur ses plateaux, énormément de paroles problématiques et de gestes problématiques. Donc voilà, c'est cette idée que l'une des plus grandes récompenses honorifiques françaises qu'on est censé remettre à des gens très admirables, et finalement on les remet à des personnes qui posent souvent problème. En tout cas, à mes yeux, c'est le cas.
Oui, Légion d'honneur, très galvaudée, jamais on en a donné autant. On se demande à quoi ça sert alors qu'il y a vraiment de valeureuses personnes qui ne sont pas sur le devant de la scène, mais qui auraient certainement mérité la Légion d'honneur.
Exactement. Déjà, en termes de célébrités, de personnes connues, je pourrais citer des centaines de personnes qui la méritent plus que ceux qui l'ont actuellement. Et puis après, moi, je viens du social, je viens du secteur associatif, je travaille dans des équipes pluridisciplinaires faites de gens passionnés, profondément humanistes, et qui, à mes yeux, sont tellement plus courageux et en font tellement plus pour ce pays que certaines personnes qui sont au pouvoir et qui, encore une fois, ont souvent des actes qui sont répréhensibles par la loi, quoi. J'ai un peu de mal avec cette fameuse Légion d'honneur qu'on remet à des personnes que je trouve pas du tout honorables.
Bien, toujours une deuxième phrase, une seule encore. Elle a réagi comme si j'avais le même degré de moralité que les Balkany.
Bon, voilà, un exemple. Quand j'ai écrit ce passage, c'était en pleine polémique en métropole, ça passait sur toutes les chaînes de télé, sur l'argent public et la manière dont ce couple politique, sur ce qu'ils en avaient fait. Donc ça passait vraiment dans tous les médias et je me dis, voilà, encore une fois, on a des personnes qui sont à la gestion d'une commune, d'une ville, d'une mairie et puis... Voilà, quelques années après, on découvre les dessous de la chose et puis c'est pas très glorieux.
Bien. Alors, je ne vais pas t'interroger sur le titre en explication de texte, mais je vais, à partir du titre, t'interroger sur un thème politique, la méritocratie. Mmh. Tu mérites un pays, dans un pays où le président ne voit que les premiers de cordée, qu'il juge, comme on vient de dire, certains dignes et d'autres indignes. Hein, comment donc vois-tu cette notion de méritocratie aujourd'hui?
Bah, c'est très simple. Moi, aujourd'hui, j'y crois absolument plus. C'est pourtant un terme qu'on retrouve encore beaucoup dans la bouche des politiciens. Cette idée de quand on veut, on peut, et puis que voilà, les origines sociales n'ont aucune influence sur la destinée d'une personne, etc. Et c'était peut-être... Alors, pour moi, ça n'a jamais été vrai, mais ça l'était peut-être plus il y a encore 30 et 40 ans, où on laissait peut-être un peu plus la chance aux gens de mettre en valeur leurs compétences, etc. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Pour moi, c'est vraiment un terme totalement désuet, totalement obsolète, mais qui continue quand même, on continue un peu de l'agiter comme un drapeau blanc, une sorte de mirage, et que ça existe encore dans la bouche de personnes très médiatisées en 2024, mais ça me fait... Enfin, c'est qu'ils n'ont pas lu Bourdieu, c'est qu'ils n'ont pas lu les dernières études sur le fait que, voilà, un enfant d'ouvriers a moins de probabilité de suivre par exemple des études supérieures ou autres, d'accéder à un emploi mieux rémunéré qu'un fils de cadre sup ou de voilà, ce genre de choses.
C'est cela le véritable mérite, justement. Quel est l'état de la France en ce moment, si tu devais poser un diagnostic aujourd'hui?
Pour moi, ce serait vraiment anxiogène, et encore, je m'appuie vraiment, c'est pas un ressenti personnel, quoi, c'est factuel. Récemment, pareil, il y a une étude qui a montré que maintenant, l'obtention d'un bac plus 5 ne garantit pas ou très peu un emploi mieux rémunéré que quelqu'un qui a seulement le bac ou une licence. Donc il y a vraiment, je comprends que les jeunes n'ont jamais été aussi anxieux et dépressifs, parce que factuellement, c'est très dur d'avoir encore des espoirs et de pouvoir rêver. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit.
Je dis que les jeunes sont aujourd'hui gagnés par l'aquabonite. L'aquabonite. Et c'est pour ça, justement, qu'ils ont parfois des réactions extrêmes. Ils sont en urgence de vivre parce qu'ils se disent de quoi demain sera fait.
Exactement. Je connaissais pas cette expression, mais je la trouve criante de vérité, parce que par exemple moi, je suis née d'un père algérien et d'une mère portugaise qui avaient vraiment, qui ont véhiculé ce message, à savoir l'intégration par l'école, la réussite scolaire te garantira un bon emploi, etc. Et en fait maintenant, je me demande comment font les parents actuellement, parce que on sait que c'est plus le cas. D'où cette fameuse étude aussi sur le bac plus 5, où en fait maintenant avoir un diplôme, voilà, garantie limite de te garantit presque pas d'avoir le SMIC. En fait, il y a vraiment un problème de cet ordre, et donc je peux comprendre les jeunes qui se disent à quoi bon, parce que ils doivent avoir des tas d'exemples autour d'eux. Il y a aussi ces fameuses études qui ressortent. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment la capacité de pouvoir rêver et avoir des illusions.
Et puis, alors, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis philosophe. Donc, le livre de René Girard sur le bouc émissaire, on a l'impression que cette société se crée des boucs émissaires où, par exemple, tout est antisémitisme, prend sa source dans une construction d'un ennemi artificiellement nanti de tous les vices de la terre, dont l'extermination peut produire comme par magie la résolution des problèmes. On est dans une société très clivée où un président, au lieu de rassembler, a le plus souvent divisé, et je pense que la population ressent cet état de division et prend le moindre prétexte pour exclure, pour marginaliser, pour trouver des boucs émissaires.
Exactement, mais vous l'avez très bien dit, je suis d'accord avec chaque mot que vous venez de dire, et je pense que c'est même pas le président actuel, c'est vraiment sur des décennies, c'est vraiment un long cheminement où il faut toujours trouver un coupable, et le coupable forcément il est toujours en bas de l'échelle sociale, hein. Ça va être toujours le plus pauvre, voilà, ça va être l'étranger, etc. Et par exemple, ce matin, ça m'a vraiment à la fois choquée et surprise de voir, j'étais au lycée Bel Air à Sainte-Suzanne, et pour le nouvel an de Tamoul, durant la récréation, des élèves ont voulu fêter ça et partager ça avec leurs camarades, et ils ont fait voilà tout un spectacle de danse, etc. Et j'étais ébahie de voir qu'ils avaient cet espace pour le faire, parce qu'en métropole, on va être vraiment dans le On va pas partager ce genre de choses. J'imagine déjà un directeur d'école qui a peur de se faire attaquer pour prosélytisme religieux. Et c'est impensable qu'en métropole, actuellement, des élèves musulmans puissent partager l'Aïd ou des élèves d'une autre confession religieuse. Et de voir cette scène sous le soleil réunionnais dans une cour de récréation avec leurs costumes hyper colorés et à la fin tous les camarades qui applaudissent, c'est là que je me rends compte que voilà, il y a vraiment des différences. Et en métropole, en tout cas, il y a vraiment cet aspect où on va plutôt pointer du doigt la différence plutôt que d'essayer d'en faire un magnifique spectacle en cours de récréation.
La Réunion, hein, elle porte bien son nom. En ce moment même à Paris, le président dirige... Je ne sais pas si on peut dire dirige un hommage à Maryse Condé. Connaissais-tu Maryse Condé ?
Ah oui, 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 j'adore. J'ai quasiment lu toute son œuvre. J'ai commencé par son autobiographie, La vie sans phare, qui m'avait estomaqué. Cette puissance, cette force, cette résilience, parce que bon, elle a subi quand même, elle a pas eu une vie facile, hein, c'est le moment de le dire. Et puis la force de son écriture, la justesse, j'ai l'impression qu'elle cherche jamais à écrire beau, alors que la beauté, on la retrouve partout dans ses textes, mais à écrire vrai et juste. Et c'est ce qui me touche profondément, c'est-à-dire que quand je la lis, ben je suis transposée dans le paysage qu'elle décrit, je me retrouve, voilà, tout est, j'adore.
Et puis elle dresse un tableau pas idyllique, ni des Antilles, ni de l'Afrique. L'Afrique d'après les indépendances qui a tellement, tellement souffert. Et puis la Guadeloupe, elle est morte, elle avait 90 ans, voilà, donc il y a longtemps, une colonie française fissurée, éclatée, où on ne reçoit que des miettes en fait.
Oui, exactement. Mais elle dresse un portrait... très juste de ces personnages. Et en fait, moi qui suis très... Enfin, c'est très paradoxal, mais j'en parlais encore ce matin avec le président de l'association La Réunion des Livres. C'est-à-dire qu'en métropole, on n'étudie absolument jamais les départements et les territoires d'outre-mer. Mais durant toute ma scolarité, j'ai jamais vu une carte des territoires. Et je pense que vous demandez à n'importe quel petit lycéen en métropole de situer La Réunion ou la Martinique très précisément, ils vont vous dire bah, « Oui, bah, c'est des îles, oui, ça appartient à la France, mais incapable de le situer. »
Mais ça, encore, la Martinique un peu, mais La Réunion se trouve aux Antilles. Hein,
oui, exactement, mais ça, c'est j'en suis quasiment persuadée. Et donc, en fait, moi, je suis... Et voilà, je suis totalement lucide sur mon inculture à ce sujet, et Maryse Condé, ça fait partie des écrivaines qui m'ont permis de, par le livre, par la littérature, mais de me poser justement la question de ces enjeux. C'est quoi un département d'outre-mer, où est-ce que sont situés ces départements, quel rapport ils ont avec par exemple la langue française. Ça, c'est une question que je pose et que les lycéens, sans même parfois que je leur pose la question sur l'existence du créole. Ce matin, on posait la question, on me disait, mais madame, vous pensez quoi de cette langue, etc. Vous l'avez beaucoup entendue. Et je leur ai dit, mais non, justement, c'est ça qui m'a surpris. C'est pas la langue en elle-même, c'est le fait de ne pas l'entendre. Je suis dans les cours de récréation, j'entends pas les enfants en parler entre eux, je me pose à une terrasse de café, je vais pas l'entendre. Et donc vraiment, la littérature de Maryse Condé, voilà, m'a fait poser plein de questions de ce type qui, pour moi, auraient dû être vues à l'école et pas me questionner à 30 ans. Enfin, pour moi, pourquoi on n'en parle pas avant, ou au lycéen, en métropole?
Oui, mais justement, c'est la fracture entre La Réunion et les Antilles. J'étais encore aux Antilles il y a 30 ans. J'avais des élèves, le fils par exemple de Patrick Chamoiseau était mon élève, qui avait choisi l'option créole. Aujourd'hui, il y a une espèce de résistance par rapport au créole à l'école. À l'école, on ne sait pas de quoi ça peut venir.
Mais c'est drôle, oui, parce que je vous crois totalement, hein, parce que de toute façon, j'ai pas assez de recul sur cette question. Mais j'ai senti dans les lycéens qui m'en parlaient vraiment beaucoup de fierté vis-à-vis de cette langue. Déjà, la volonté de m'apprendre des petits mots, des petites expressions, et puis de me dire en gros, faites attention, voilà, le créole est là, on veut vous le. Par exemple, ils m'ont dit, cet après-midi, il y en a un qui m'a dit, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de le parler à l'école. J'ai fait, mais. Il me fait, non, c'est pas une obligation, mais voilà, c'est vrai qu'en cours, c'est le français, etc. Donc voilà, je sens qu'il y a vraiment un enjeu autour de cette langue. Et oui, ça pose la question aussi de la place du français qui est toujours véhiculée. En fait, il y a une hiérarchisation des langues, qu'on le veuille ou non. Pareil, une hiérarchisation des accents. En métropole, il y a des accents qui sont bien plus acceptés que d'autres. L'accent espagnol, italien, on va le trouver très sexy, très, très, très beau, très acceptable. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans une entreprise où l'hôtesse d'accueil, donc la personne qui représente la société, qui est la première personne que je rencontre, a un accent espagnol et un accent italien. Je sais de facto que ce serait inenvisageable qu'une personne ait un accent arabe ou voire antillais, etc. Donc il y a une hiérarchisation des langues. Le français, c'est vraiment genre la langue de réussite, la langue qu'il faut parler. Puis après, on a toutes ces langues en dessous. Et puis pareil pour les accents. Donc oui, c'est sûr qu'il y a un problème, il y a un enjeu.
Oui, parce que, mais jusque-là, un antillais réunionnais qui part à métropole, même avec un bon niveau d'études, les entretiens d'embauche se font en français, tout se fait en français. Donc il y a la langue créole est forcément minorée, ce qui est dommage.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais ben, je comprends, oui, je comprends voilà. Tout à fait.
Alors, on passe à toute autre chose, la romancière que tu es, comment se situe-t-elle par rapport au féminisme? Je veux parler du féminisme pas outrancier, tout le monde se victimise, si on te fait un compliment un peu... Ah, tu es bien foutu, hein. Elle se sent tout de suite agressée. Si on te tutoie un nègre, il se sent agressé, il y voit du mépris. Si on te contredit, c'est une agression. On voit même du racisme dans la littérature. Par exemple, les 10 petits nègres réécrits parce qu'on y voit du racisme. Comment te situes-tu par rapport à tout ça?
Mais par rapport à ça, je comprends totalement que, enfin, moi-même, je suis offensée parfois par certaines choses, mais justement, pour moi, il faut passer à l'histoire. C'est important de savoir qu'il y a une époque, on pouvait utiliser ce fameux mot avec le N qui peut blesser certaines personnes, ça je le conçois totalement. Mais pour moi, justement, il faut. Enfin, mon parti pris, c'est que il faut montrer que c'est, il faut pas effacer ça. Il faut montrer que ce temps existe et qu'on pouvait mettre en première page de couverture un terme qui est outrancier. Donc, et puis pareil, bah pour le féminisme, moi je suis résolument féministe. Enfin, pour moi, la question se pose même plus. La question serait, mais qui ne l'est pas en fait? Il y a ce
décalage. On l'est peut-être forcément, mais moi, ce que je condamne. C'est un certain féminisme trop outrancier, Sandrine Rousseau par exemple.
Ah ok, eh bien, je dirais que je me revendique presque de ce féminisme outrancier. Je pense qu'on a laissé passer trop de choses pendant trop longtemps et donc du coup maintenant il y a la cocotte minute qui a explosé et donc tout nous paraît outrancier, mais faut prendre voilà les décennies de silence, etc. Moi par exemple Sandrine Rousseau me choque absolument pas et c'est même une femme politique que j'apprécie, mais voilà, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre du générationnel, etc. Mais moi, je vois par exemple l'exemple de ma mère. Ma mère, en ce moment, je pense qu'elle a accepté énormément de choses par le passé, et maintenant, elle ne laisse plus rien passer. Je le vois dans son attitude. Il y a eu vraiment une éclosion, et quand on discute avec elle, elle me dit que c'est de nous voir nous, ma sœur, moi, mon frère, avec une nouvelle mentalité, une nouvelle mode de pensée, qui lui ont permis elle-même de rééquilibrer la chose. Et donc maintenant, des choses qu'elle a laissé passer pendant des dizaines d'années, on a l'impression que maintenant, elle a un caractère. Elle ne laisse plus rien passer. Et je pense que c'est ça qui peut paraître parfois outrancier, c'est qu'il y a eu tellement de silence, tellement de... Voilà, que maintenant... Mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ces femmes qui ne laissent plus rien passer, qui ont décidé de se battre à tous les niveaux. Et pour moi, le rééquilibrage doit se faire de l'autre côté, pas d'elle.
Crois-tu à la désobéissance civile?
Évidemment, mais évidemment. Après, je suis totalement consciente et lucide que c'est plus facile à dire qu'à mettre en œuvre. Sur le papier, bien sûr que moi aussi j'ai envie de croire que je suis comment on peut dire, que je désobéis, etc. Il y a tellement d'injustices, il y a tellement de choses qui me paraissent absurdes, des lois totalement loufoques. Bon, la vérité, c'est que quand on est dans le système, c'est très difficile d'en sortir. Et puis surtout, il y a cette violence symbolique du système. Il y a plein de choses que je trouve injustes, mais le système est fait de sorte que celui qui essaie justement de désobéir s'en trouve puni et violemment, notamment par l'argent. Je veux dire, je prends un exemple tout bateau. Voilà, on sait très bien que face à la justice, une personne qui a plus d'argent, plus de, je sais pas, une aura de célébrité, des connaissances, peut plus facilement y échapper que peut-être le petit jeune qui a vendu un peu de drogue et qui se retrouve drogue qui est en plus légale dans bon nombre de pays et qui va se retrouver en prison pour un an. Mais ça, on le retrouve partout. Les condamnations d'inceste ou de violences sexuelles qui sont moins lourdes que peut-être un cambriolage où on a volé trois téléviseurs et une PlayStation. Donc voilà, l'injustice, elle est partout. Et c'est le thème, enfin, ce concept de désobéissance civile, mais je suis pour à 100%, tout en étant conscient que c'est difficile de le mettre en pratique.
Et La Fontaine l'avait déjà vu au XVIIe siècle, que l'on soit puissant ou misérable, la justice sera différente.
Ah, bien sûr.
Voilà. Je sais que tu es un peu pressée, mais j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu penses qu'il est encore possible, en France, de pacifier les relations entre les musulmans et la République ?
Oui, mais c'est à la République de faire l'effort. Parce que bien sûr que avec des politiques intelligentes, des politiques, des hommes et femmes politiques et puis des politiques intelligentes, on pourrait faire beaucoup de choses. C'est pas le cas actuellement. On a vraiment cette idée que l'ennemi actuel, ce sont les musulmans. Tout est fait pour les empêcher d'accéder. Sur un CV. Pareil, un Thomas a plus de chances d'être appelé qu'un Mohamed. Un Mohamed a plus de probabilité de se faire arrêter, les délits de faciès par la police qu'un Thomas. Enfin voilà, pareil. Donc bien sûr que c'est totalement possible. Sinon, on se tire une balle tout de suite et puis on arrête le combat. Moi, je suis dans le social, donc si j'y crois plus, j'arrête de travailler tout simplement. Mais
évidemment, crois-tu au pardon ?
Oh.
Oh, pardon.
Oui,
réparation à très large échelle et puis le pardon de manière individuelle.
De manière individuelle, j'y crois sincèrement. Quand les mots sont accompagnés d'actes et d'un vrai repentir, si c'est juste. Et pareil, en fait, à une échelle plus grande, c'est facile de faire des discours, c'est facile de. Mais si ça s'accompagne pas d'action concrète, c'est que des mots et puis ça sert à rien, je veux dire.
Absolument. D'ailleurs, Vladimir Yankelevitch publie un livre remarquable, Pardonner, point d'interrogation, où il dit qu'on ne doit pas pardonner les crimes d'État, les crimes nazis et les crimes.
Ah oui, là on était sur des gros pardons. Oui, voilà. Bien sûr, mais il faut se mettre à la place des victimes de ces choses. Enfin. C'est trop terrifiant. Oui, le pardon a ses limites. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je sais que je crois au pardon, mais bien sûr que le pardon a ses limites. J'avais pas pensé à des choses aussi horribles.
Oui, voilà. Alors, juste pour terminer, il est où le bonheur ?
Actuellement, ma réponse, c'est qu'il est clairement à La Réunion, dans ses salles de classe avec les lycéens.
Merveilleux. Alors, le mot de la fin pour nos auditeurs et pour la Réunion de manière plus générale.
Merci beaucoup.
Voilà. Merci à toi, Leïla. Et puis, merci pour le plaisir de cette lecture. Tu mérites un pays, Leïla Bouerafa, aux éditions Alary. Merci, chers amis auditeurs. Beaucoup.